pas faux, l'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour tout le monde, bonjour Rémi.
Bonjour Simon, bonjour à toutes et à tous.
Bienvenue dans le premier numéro de C'est pas faux de l'année, l'émission de vulgarisation scientifique de Radio Phoenix.
Qui dit nouvelle année dit nouveau présentateur, nous sommes ravis de vous accompagner pour cette nouvelle saison. On se retrouvera chaque mardi à midi pour parler science avec différents invités.
Nous sommes le mardi 27 septembre 2022 et le thème du jour est plus que jamais d'actualité puisque nous allons parler de climat et plus précisément du rôle du climatologue.
À quoi sert-il? Quelle est la différence entre climatologue et météorologue? Pourquoi la confusion entre climat et météo continue de régner?
Pour parler de ce sujet et répondre à toutes ces questions, nous allons recevoir François Beauvais, chercheur et climatologue à l'université de Caen.
Mais avant, c'est l'heure du flash avec les infos sciences de la semaine. Jamais 203. Après deux tentatives ratées de la NASA pour lancer sa fusée Artemis 1 vers la Lune, l'agence spatiale américaine va encore devoir repousser un lancement. En cause, la tempête tropicale Nian, au sud de la Jamaïque, qui contraint la fusée Artemis à rester dans son bâtiment d'assemblage. La tempête devrait devenir dans les prochains jours un ouragan majeur et remonter vers la Floride, vers le centre spatial Kennedy, où se trouve la fusée. La fusée sur son pas de tir peut résister à des vents de plus de 130 km/h, mais pour acheminer la fusée du bâtiment d'assemblage jusqu'à la rampe de lancement, les vents ne doivent pas dépasser plus de 75 km/h. Un problème qui retarde encore le lancement de la fusée Artemis. Pour rappel, le but de la mission est de permettre aux humains de retourner sur la Lune 50 ans après la première émission Apollo.
Santé maintenant, avec une divulgation massive de données de santé provenant de l'hôpital de Corbeil-Essonne. En août dernier, l'établissement avait été cyberattaqué par des pirates informatiques qui menaçaient de divulguer ces données censées rester privées s'ils ne percevaient pas une rançon de 10 millions de dollars, ce que n'a pas fait l'hôpital. Les pirates ont donc mis leur menace à exécution ce dimanche et ce n'est pas moins de 1,5 million de personnes, patients et ou agents de l'hôpital qui sont concernés. Parmi les fuites, on trouve notamment des numéros de sécurité sociale ou encore des comptes rendus d'examen. L'hôpital a quant à lui porté plainte auprès de la CNIL, la Commission Nationale d'Informatique et des Libertés, refusant de céder au chantage des cybercriminels qui réclament toujours 1 million de dollars pour retirer les données rendues publiques. Un plan d'urgence, dit plan blanc, a également été déclenché pour assurer la continuité des soins dans cet établissement qui reçoit environ 230 personnes par jour.
Une solution pour lutter contre les déserts médicaux. C'est en tout cas la promesse du gouvernement dans son projet de loi de financement de la sécurité sociale. La solution, allonger d'un an les études des médecins généralistes et les inciter à finir leurs internats dans les déserts médicaux. Selon le ministre de la Santé, François Braun, et la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, ce sera, je cite, « une année de consolidation qui aura vocation à se dérouler en zone sous-dense ». La durée des internats pour les médecins généralistes passerait de 3 à 4 ans. En tout, la formation entière de ces médecins serait de 10 ans. Cette réforme devrait être mise en place dès la rentrée 2023.
On parle énergie maintenant avec une première mondiale, une plateforme de production d'hydrogène en mer a été inaugurée le 22 septembre dernier. Elle se trouve au large du Croisic en Loire-Atlantique. Haute d'une quinzaine de mètres, elle devrait pouvoir produire prochainement 400 kg d'hydrogène par jour. Une production qui pourrait techniquement faire rouler quotidiennement 400 véhicules sur 100 km. Si pour le moment cette plateforme n'est qu'expérimentale, l'objectif à long terme est de la raccorder par oléoduc vers la terre ferme afin qu'il puisse alimenter des voitures ou des chariots élévateurs dans des centres de logistique. Alors pour vous expliquer rapidement comment cela fonctionne, il s'agit d'un hydrogène qui est obtenu par électrolyse en cassant des molécules d'eau, un hydrogène dit vert, considéré comme plus durable et peut-être une réponse partielle à la crise énergétique qui guette. Il faut cependant relativiser car cette production est tributaire des contraintes de la mer, explique Antoine Amon qui est directeur des opérations, des contraintes qui sont par exemple un espace restreint, du vent, des vagues, de l'humidité, un risque de corrosion de matériel ou encore un pilotage à distance qui est compliqué.
20 millions de milliards. Alors non, ce n'est pas l'argent que j'ai sur mon compte en banque, c'est bien dommage, mais c'est bien le nombre de fourmis sur Terre. Un chiffre qui donne le vertige, il y a 100 000 fois plus de fourmis que d'étoiles dans notre galaxie. Selon les chercheurs, ce serait même une estimation prudente. Jusqu'ici, les estimations du nombre de fourmis étaient plutôt des extrapolations basées sur des méthodologies douteuses et subjectives. C'est donc une équipe de chercheurs de l'université de Hong Kong et de Würzburg en Allemagne qui ont fait un regroupement de 489 études réalisées partout dans le monde. Au niveau de la répartition des populations, il y a très peu de fourmis dans les milieux urbains. On va les retrouver surtout dans les forêts tropicales humides et les savanes tropicales. Cette estimation n'a pas été faite pour le plaisir de compter, mais pour comprendre le rôle central que jouent les colonies de fourmis dans les écosystèmes. En effet, les fourmis sont de véritables ingénieurs de la Terre. Elles décomposent les nutriments, renouvellent le sol, distribuent les graines. Le but est aussi de savoir comment ces insectes réagissent et s'adaptent à la principale menace du siècle, le réchauffement climatique.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Bien que la France et le monde en général ont vécu un été particulièrement chaud, la parole climato-sceptique ne semble pas s'être atténuée. Et bien souvent, l'argumentation de ceux qui nient le dérèglement est teintée de confusion entre climat et météo.
Sur un plateau de télé Hilar, Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint du Figaro Magazine, déclarait « Les gens de Météo France ne sont pas fichus de nous donner le temps dans 10 jours, alors je ne sais pas comment ils arrivent à nous donner le temps dans 80 ans ». Une petite phrase qui en dit long sur le confucianisme entretenu auprès du grand public.
Pour essayer d'y voir plus clair, nous allons chercher à comprendre quelle est la différence entre climat et météo, pourquoi toutes ces confusions, comment travaillent les climatologues. On en parle avec notre invité. Bonjour François Beauvais.
Bonjour.
Vous êtes chercheur et climatologue à l'université de Caen, alors on va commencer par une question basique. Quelle est la différence entre météo et climat ?
Alors c'est vrai qu'il y a souvent des confusions entre la météorologie et la climatologie. Alors l'une des raisons, c'est parce qu'elle travaille avec les mêmes variables atmosphériques, mais également avec des outils communs. Donc le météorologue comme le climatologue va s'intéresser à l'évolution, enfin à la température, à l'hygrométrie, à la nébulosité, donc les nuages dans l'atmosphère, ou la pluviométrie, à l'évapotranspiration, enfin à différentes variables atmosphériques, sauf que la météorologie et la climatologie ne s'intéressent pas au même pas de temps. Enfin, s'intéressent au même pas de temps, mais c'est pas. La météorologie va être la science du court terme, alors que la climatologie, ça va être sur le long terme. Donc le météorologue, il va déterminer quelles sont les conditions atmosphériques à un instant T, ou dans quelques heures, ou dans quelques jours, il va faire des prévisions. Alors que le climatologue, lui, toutes ces variables atmosphériques, même s'il descend au pas de temps quotidien, il va lui les réanalyser sur un temps plus long, une normale climatique, donc généralement constituée de 30 années. Alors après, il y a des outils communs, comme par exemple les modèles météorologiques, que les climatologues vont également utiliser. Sauf que le météorologue, lui, il l'utilise, il fait des prévisions du temps à partir des conditions initiales. Par exemple, à partir d'aujourd'hui, il va simuler la météo pour demain, dans 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Alors que le climatologue, lui, va mobiliser ses modèles pour les faire tourner sur plusieurs décennies et jusqu'à, par exemple, 2100, selon les émissions de gaz à effet de serre.
Justement, comment on mesure toutes ces variables ? Vous avez parlé de pluviométrie, température. C'est quoi les outils qu'on utilise concrètement ?
Alors, on a un réseau de stations météorologiques, comme le réseau de Météo France, où il va y avoir des relevés qui sont... les stations vont enregistrer ces données, qui sont ensuite analysées. Donc par des météorologues et également des climatologues. Et puis, il existe aussi les modèles numériques. Donc là, c'est comme des gros ordinateurs, des supercalculateurs qui vont calculer les variables atmosphériques sur l'ensemble du globe, avec parfois des modèles régionaux qui vont faire des zooms sur des portions d'espace et donc simuler soit la météorologie ou le climat sur plusieurs années.
Comme on l'a dit tout à l'heure, vous êtes climatologue. Concrètement, quelles sont vos missions ? Quel est votre quotidien dans votre métier ?
Alors, il y a différents types de climatologues. Donc il y a d'une part les climatologues, les nouveaux climatologues depuis quelques décennies, savoir les physiciens de l'atmosphère ou plutôt les chimistes qui vont travailler, ou les mathématiciens, les modélisateurs qui vont travailler sur les modèles de climat et plutôt sur la physique de l'atmosphère. Puis il y a aussi les climatologues géographes, donc là qui vont plutôt s'intéresser aux données sorties de ces modèles pour les faire parler sur un territoire, par exemple, à différentes échelles et pour différents secteurs socio-économiques. Donc, dans mon cas, c'est analyser des variables atmosphériques pour l'agriculture et estimer quelles peuvent être les conséquences du changement climatique sur les productions végétales. Donc, je reprends les données de ces modèles. Donc, c'est un travail sur ordinateur où je resimule en fait le cycle de la plante et je regarde l'occurrence d'aléas climatiques sur des stades sensibles de la plante pour plusieurs décennies en fonction de différents niveaux de concentration d'émissions de gaz à effet de serre. Puis on a également des relevés de terrain qui peuvent aller à des relevés avec des stations météorologiques, comme également des analyses de sol pour l'agriculture, puisqu'on est à l'interface entre l'atmosphère, la plante et le sol.
Comment est-ce que vous en êtes arrivé là ? C'est quoi votre parcours concrètement ?
Alors donc moi je suis passé par une licence de géographie donc à l'université de Caen. Alors au début, je me prédestinais pas à la climatologie, puisqu'il y a des cours à la fois plutôt de géographie humaine qui vont plutôt s'intéresser à la société, et puis des cours de géographie physique, où là, eh bien, on va voir de la climatologie, de la géomorphologie, donc les différentes formes du relief, les processus d'érosion, l'hydrologie aussi, donc tout ce qui va se rattacher à l'eau. Et puis moi, j'étais un peu entre les deux, et puis en master, je suis plutôt parti sur la géographie physique en me spécialisant en climatologie. Et je suis plutôt parti sur une climatologie appliquée parce que l'agriculture et les dimensions sociétales m'intéressaient aussi. Donc bon, bah, avec le changement climatique et toutes les conséquences qui y sont associées, eh bien, je suis parti dans un doctorat. Donc pour pouvoir être climatologue géographe, il faut faire un doctorat. Et donc là, c'était un doctorat sur les conséquences du changement climatique pour les productions végétales, avec la mobilisation des données extraites de la modélisation du climat, et puis des analyses de terrain, parfois même jusqu'à des enquêtes auprès des exploitants agricoles pour comprendre comment eux, ils vivaient et s'adaptaient au climat, comment ils géraient leur exploitation par rapport à tous ces éléments.
Et justement, est-ce que l'éducation au climat, ça fait partie de vos missions ?
Pas vraiment, donc surtout un travail de recherche et aussi de l'enseignement, puisque quand on fait un doctorat, ou même là, je suis en post-doctorat, mais je continue à donner cours, alors on peut considérer que dans le cadre des enseignements en climatologie, c'est un peu un éveil au changement climatique. Par exemple, pour les étudiants en première année, on se dit qu'au-delà en fait, de l'enseignement au changement climatique, eh bien, ça permet déjà de donner de la connaissance sur ce sujet et que tout le monde puisse, toutes les personnes inscrites en première année de géographie puissent au moins s'approprier cette question. Et puis il y a également aussi la vulgarisation, donc qui passe par ça peut être des activités au fait de la science, le dôme,
la radio. Donc,
voilà, la radio aussi, les journaux, enfin il y a un peu un lien avec les passeurs de science, par exemple.
Et vous d'ailleurs, justement, vous avez reçu un prix pour votre thèse.
Oui.
Qui est donc approche géographique et agroclimatique des conséquences du changement climatique sur l'agrosystème céréalier de Normandie. Est-ce que vous pouvez nous la synthétiser le plus rapidement possible si c'est facile à synthétiser,
oui.
J'imagine que c'est pas évident.
Alors en quelques mots, ça c'est le titre de la thèse. La grande idée, c'était de comparer des indicateurs dits agroclimatiques et des indicateurs phénoclimatiques. Les indicateurs agroclimatiques, c'est étudier l'occurrence d'aléas sur des dates invariantes du calendrier. Par exemple, on sait que le nombre de jours d'échaudage est en augmentation et pénalise les rendements du blé. L'échaudage, c'est quand on dépasse 25 degrés. Si on dépasse 25 degrés dans la phase finale du cycle du blé, eh bien, ça va stopper le remplissage des grains. Et si les grains ont un remplissage qui est stoppé, ils sont moins lourds, donc on a moins de rendement. Donc généralement, en fait, la dernière phase du cycle, elle correspond au mois de juin et de juillet. Donc on va regarder jusqu'à 2100 quelle est l'occurrence entre le 1er juin et le 31 juillet de ces jours d'échaudage. Mais donc ça c'est l'indicateur agroclimatique. Et puis si on s'intéresse à l'indicateur phénoclimatique, on va simuler les dates d'apparition des stades. Parce que s'il fait plus chaud, eh bien le cycle de la plante s'accélère et donc cette phase finale n'arrivera plus en juin-juillet, mais plutôt au printemps. Donc ça, c'est l'aspect méthodologique. Et donc en fait, quand on s'intéresse au décalage du cycle de la plante, on constate eh bien, qu'on aurait une maturité beaucoup plus tôt, de l'ordre de 5 semaines. Donc on ne récolterait plus le blé fin juillet, mais fin juin. Donc on éviterait les sécheresses et les chaleurs estivales. Par contre, les stades qui avaient lieu au printemps se dérouleraient en sortie d'hiver. Donc là, la plante pourrait être exposée à des basses températures ou même à un manque de rayonnement parce que la durée du jour en sortie d'hiver est beaucoup plus courte.
En tant que doctorant, comment on construit une thèse ? Déjà, comment on a l'idée ? Et ensuite, avec qui on travaille ? Comment on trouve les contacts et tout ça ?
Quand on veut faire une thèse, on commence à y réfléchir en master. Donc nous, dans le master de géographie, il fallait faire un mémoire de recherche. Et déjà, ça donne une première idée de savoir si on est en mesure de faire une thèse ou non. Déjà, il faut que le sujet intéresse la personne. Alors, dans mon cas, il y a un sujet m'intéressait. Et donc, j'ai proposé en fait, de continuer ce que j'avais fait en mémoire. Donc, ce sujet qui m'intéressait, changement climatique et agriculture. Et donc, j'ai contacté deux personnes. Olivier Cantat, qui est climatologue à l'Université de Caen. Et Philippe Madeline, qui est géographe ruraliste. Pour la dimension agriculture, et donc ils ont accepté de m'encadrer, et ils m'ont encadré sur toute la durée de la thèse.
On parle depuis tout à l'heure nature dans C'est pas faux, l'occasion de faire une petite pause musicale justement avec Mother Nature de Crystal Cadillac. Vous êtes sur Radio Phoenix.
Hey, come on, my man, come on. Hey, you tweaking on yourself, my man, like, what you mean? You don't know what you're worth? You don't know that you get it?
I mean,
man, they tweaking on you, but it's all good, man. We gon' bring them back to the essence. We gon' take them back to where it all began. You feel me? Understand who you is, what you are. You know what I'm saying? No. This is Mother Nature, free national, hey. Great thinkers.
I
talk
love
to them, sis.
Push a man, I pull up in a Cadillac.
Fuck, feel lesser, thrive off the pressure. She smile at the Tesla. Yeah. I'm testing your steez and my four finger ring. Kiss the pinky of a queen, create gold from a dream. Let it marinate. I don't serenade, but if I do, I'll probably give you bellyache. Cause your favorite lucky charm on a dinner date. Take the picky from the farm, got a selling steak.
Wait, they don't know.
Push a man, I pull up in a Cadillac. Diamond in the bag. Pressure giving session, foot stay on the gas. Fresher than a blessing, I need more with that. Hit the intersection, be my cul-de-sac. Close, catch Holy Ghost, you feel it? Realest thing I own is the spirit. Miracle I'm still alive, cause they done tried to kill it. Kill it one too many times, my macabre double pyramids. That's on period, sis. Point blank, never miss. The sun and the moon, we've been causing eclipses. It's all in the glyphs. Get in tune or get lost in the shift. 5D, 5'3, she a feisty little bitch. She got a supernatural steed, she don't like to get kissed. Fuck around, forget the keys, like her eyes on my lips. I only want the trees, we can leave for a bit. Hitting corner, see police, gotta weave in the live.
They don't know why I see through my God. Fall in my favor, this foresight unlocked. Calling those voices with pain in my heart. Practice my theory, this service won't stop.
Push a man, I put up in a Cadillac. Diamond in the bag. Pressure give it section, foot stay on the gas. Fresh it in the present, I need my way that. Hit the intersection, be my cul-de-sac. Push a man, I put up in a Cadillac.
Et on vient d'écouter Crystal Cadillac du groupe Mother Nature sur Radio Phoenix. Vous écoutez toujours C'est pas faux. Pour rappel, nous sommes toujours avec François Beauvais, chercheur et climatologue à l'université de Caen, pour parler de son travail et les différences entre climat et météo.
Alors ça ne vous aura pas échappé, nous avons subi une intense vague de chaleur cet été. Est-ce que ce phénomène relève plus du climat justement, ou de la météo, ou des deux?
Eh bien c'est un peu des deux, on peut dire que par exemple c'est un phénomène météo-climatique, là on a des situations météorologiques, dans la circulation atmosphérique qui nous ont amené à voir des situations de blocage anticyclonique qui engendraient ces vagues de chaleur et ces sécheresses, donc on en a eu trois cette année, et en fait ces situations, d'une année à une autre, on n'a pas toujours les mêmes conditions climatiques. Enfin, on va voir, c'est la variabilité interannuelle du climat. C'est-à-dire que cette année, on a une sécheresse, mais peut-être que l'année prochaine, on aura un été humide. L'année dernière, par exemple, il était humide. Mais avec le changement climatique, ces sécheresses ont tendance à se répéter. Elles arrivent plus tôt dans l'année et elles sont plus intenses. Donc là, on est vraiment à la croisée entre météorologie et climatologie.
Et depuis combien de temps ces périodes de sécheresse tendent à se répéter?
Eh bien, on a déjà eu quelques premiers avertissements. Donc, par exemple, l'année 1976, on a eu également, au passage entre la fin des années 80 et 90, on a eu également 2003 où on a eu la canicule, mais également une sécheresse, puis ces dernières années. Donc, une sécheresse pourrait arriver même si on n'avait pas eu le changement climatique en raison de cette variabilité interannuelle du climat. Mais depuis une trentaine d'années, eh bien, elles ont tendance à se répéter, à être plus intenses à cause justement du changement climatique. Et donc en fait, c'est comme si les extrêmes étaient rehaussés.
Et si on se fixe à un point de vue peut-être plus local, la Normandie, bon, qui n'est pas réputée pour être une région très chaude, mais pour autant, est-ce qu'il y a eu des fortes hausses ciblées en Normandie? Et qu'est-ce qui attend la Normandie en termes de climat dans les années à venir?
Oui, c'est vrai que derrière la Normandie, on peut avoir l'image d'un climat, on a l'image du climat océanique plutôt agréable. Mais pour autant, la Normandie, elle subit d'ores et déjà le changement climatique. Donc si on s'intéresse, par exemple, aux températures, si on compare deux normales climatiques de 30 années, 1951-1980 et 1991-2020, la température moyenne a augmenté de plus 1,1 degré à la station de Caen. Donc on a bien cette augmentation de la température. Du côté des précipitations, c'est à peu près stable. Mais par contre, on a une augmentation de l'évapotranspiration à cause justement de l'augmentation de cette température, ce qui peut amener à un déficit hydrique pour les plantes un peu plus important.
L'évapotranspiration qui est ?
En fait, c'est la demande atmosphérique, donc c'est-à-dire on va avoir évaporation plus transpiration de la, enfin évaporation des sols plus transpiration de la plante. C'est ce que va consommer en fait le système. En fait, pour compenser cette demande du système, il faut qu'il y ait assez de précipitations. Donc si les précipitations diminuent et qu'on a une augmentation de l'évapotranspiration, dans ce cas-là, on a moins d'eau, enfin, disponible pour la végétation. Et bah là, nous, ce n'est pas vraiment le cas. On a des précipitations stables, mais l'évapotranspiration augmente quand même. Donc, on a un déficit qui est malgré tout un peu plus important. Donc, il faudrait qu'il y ait plus de précipitations pour compenser cette hausse de l'évapotranspiration. Et puis, on a aussi diminution des jours de gelée, augmentation des vagues de chaleur. Et donc, tout ça, c'est amené à se répéter à l'avenir.
On a vu dans l'actualité des feux de forêt, notamment en Gironde. Est-ce que c'est des choses qui attendent la Normandie?
Alors là, c'est assez difficile à répondre. J'ai pas vraiment d'éléments. Enfin, on n'a pas travaillé sur la simulation de possibles feux de forêt. Par contre, si les sols sont de plus en plus secs, de plus en plus secs dans les prochaines décennies, peut-être qu'on pourrait être concerné par des départs de feu. Enfin, c'est peut-être quelque chose à envisager, même si là, dans les faits, je ne peux pas vraiment répondre avec... Enfin, je ne peux pas l'affirmer.
Ou d'autres phénomènes liés au climat, on pense peut-être plus ici à l'érosion ou ce genre de choses. Est-ce que ça, pour le coup, ça risque de beaucoup plus arriver?
Pour l'érosion des sols?
Ouais.
Oui, c'est possible, parce qu'on aurait, dans les prochaines décennies, alors on parle beaucoup de sécheresse, puisqu'on aurait une réduction des précipitations, mais il faut aussi préciser que l'hiver pourrait être un petit peu plus humide. Et donc, si on a un sol nu, parce que, par exemple, on fait beaucoup de céréales, donc quand on est à l'automne, il faut le temps quand même que la plante puisse lever. Donc tout ce temps-là, le sol est à nu. Donc si eh bien, on a des automnes, des hivers qui peuvent être un petit peu plus humides ou avec des précipitations plus intenses, eh bien, ça peut favoriser l'érosion des sols.
Et justement, face à ce qui nous attend, est-ce qu'il y a des aménagements qui sont assez bien pensés? Est-ce qu'en gros, le territoire est prêt en termes d'aménagement à subir ce qu'on va subir?
Alors là, précisément sur ces problématiques d'aménagement, je ne vais pas savoir précisément, mais par contre, il va falloir le repenser, c'est évident. Et ce qu'il faudrait, c'est faire réellement une étude de faisabilité en cartographiant en fait un indice de vulnérabilité sur l'ensemble du territoire normand qui permettrait de savoir si les aménagements sont bien pensés. Mais par contre, c'est sûr que si on a des précipitations plus intenses avec, par exemple, des cuvettes topographiques qui sont imperméabilisées, donc avec du béton, l'eau ne va pas pénétrer. Donc là, dans ce cas-là, par exemple, on peut avoir des inondations. Donc, et puis même chose pour d'autres thématiques, par exemple l'agriculture, peut-être qu'il faudra revoir certaines pratiques face à de nouveaux aléas.
Pour la recherche du climat, il y a le GIEC et la région, elle a souhaité aussi un GIEC normand. C'est quoi sa mission? Comment ça fonctionne le GIEC normand?
Alors, effectivement, en 2019, oui, la région a créé le GIEC normand, donc avec des scientifiques, ils sont 20, et donc, c'est présidé par Benoît Léniel de l'Université de Rouen et Stéphane Costa de l'Université de Caen, donc ils co-président tous les deux. Puis il y a différents items, où il y a également des personnes qui dirigent ces items. Et donc, en fait, jusque-là, ils étaient chargés en fait, de faire un inventaire de littérature scientifique. Donc, en gros, ils ont regardé qu'est-ce qui a été fait en matière de changement climatique dans les différentes sciences qui s'intéressent au changement climatique pour pouvoir dresser, en quelque sorte, un diagnostic de la région face à ce changement climatique. Puis ils ont également communiqué à plusieurs reprises auprès de différents organismes dans la région pour sensibiliser et surtout exposer et donner des connaissances qui peuvent servir d'outils d'aide à la décision.
Et justement, quels ont été les diagnostics, les constats qui ont pu émerger de ces premiers travaux du GIEC Normand ?
Alors, il y a différents constats. Donc, par exemple, pour la partie agriculture, on pourrait peut-être avoir un peu plus d'érosion des sols. Face à certaines cultures, il y aurait peut-être plus de jours d'échaudage, des sécheresses un peu plus prononcées, donc plus de déficit hydrique. Ils sont également intéressés en hydrogéologie à la ressource en eau. Donc, faire attention aussi parce qu'il peut y avoir des pressions à ce sujet-là. Parce que si on a moins de précipitations et qu'on a moins d'eau dans les nappes, il peut y avoir aussi... derrière, après, d'un point de vue sociétal, des conflits d'usage. En fait, ils ont donné les clés de lecture pour comprendre le changement climatique dans ces différents items. Et ce qui en ressort, c'est qu'il y a quand même encore un besoin de recherche important.
Est-ce que, justement, la ville, la région, est-ce qu'elle prend au sérieux ces constats qui sont faits par les chercheurs en climatologie ?
Oui, je pense, parce que déjà la volonté de la région de créer ce GIEC Normand, c'est déjà un premier intérêt qui est porté au changement climatique.
On évoquait du coup les possibles critiques qu'il pouvait y avoir envers le GIEC Normand. Vous, en tant que climatologue, est-ce que ça vous arrive aussi que votre travail soit critiqué ? On entend souvent des critiques climato-sceptiques vis-à-vis des climatologues qui sont parfois taxés de militants. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Ou est-ce que vous êtes, entre guillemets, plutôt tranquille dans votre travail ?
Non, moi je suis plutôt tranquille, j'ai pas eu affaire à des critiques. Alors peut-être aussi que lorsqu'il y a vulgarisation scientifique, je me retrouve face à des gens qui sont déjà sensibilisés et pas forcément confrontés à des personnes qui peuvent être climato-sceptiques. Finalement, j'ai envie de dire peut-être que finalement on se croise pas, parce que ces personnes sont peut-être justement moins sensibilisées. Et puis, rattachement à une cause politique, je ne fais pas un travail de géographe climatologue pour défendre une cause, mais je reste neutre, en fait, je donne un constat, et puis après, c'est un choix citoyen de savoir qu'est-ce qu'on veut faire pour éviter des aléas climatiques plus importants.
Et pour ouvrir un peu le débat, donc on a vu il y a des critiques, est-ce que parfois on n'a pas l'impression que tout est foutu, les températures augmentent, au niveau mondial il n'y a pas vraiment beaucoup de réactions, est-ce que c'est fichu ou est-ce que ça va changer ?
Alors pour les 20 prochaines années, c'est déjà quasiment joué. Donc c'est-à-dire que si le temps qu'on réduise nos émissions de gaz à effet de serre et qu'on puisse infléchir la courbe des températures, ça sera. En fait, si on fait des efforts maintenant, c'est plutôt pour après 2050. Mais c'est-à-dire que si on veut éviter d'être sur une trajectoire catastrophique, il va falloir faire des efforts dès maintenant. Mais le problème, c'est qu'il faut que ces efforts-là, ils soient faits à l'échelle mondiale. Donc, par exemple, on a la Chine, c'est un tiers des émissions de CO2. Si la France fait des efforts, mais que la Chine à côté n'en fait pas, eh bien, on ne va pas pouvoir inverser la situation. Donc, il y a une trajectoire où on réduit nos émissions de gaz à effet de serre, on respecte l'accord de Paris sur le climat, mais pour le moment, on n'est pas du tout sur cette trajectoire-là. Mais même si on se retrouve sur cette trajectoire optimiste, il y aura quand même des conséquences, puisqu'un monde à plus 1,5 ou plus 2 degrés, c'est quand même un monde avec des catastrophes climatiques, mais également économiques et sociétales. Et puis, il y a l'autre scénario extrême, c'est on continue sur les émissions de gaz à effet de serre, et là, c'est un monde qui n'est pas du tout souhaitable, avec des inquiétudes sur de possibles effets d'emballement.
Si les pays qui sont concernés par le réchauffement climatique comme la Chine, les États-Unis ou les pays émergents, typiquement le Brésil et tout ça, comment on peut faire, nous la France, pour les inciter à changer ? Est-ce qu'au final, nous on n'est pas responsables, les pays qui sont déjà riches, d'avoir utilisé toute matière fossile ? Est-ce que c'est pas un peu hypocrite de notre part de dire c'est aux pays qui sont en train d'émerger, qui sont en train d'utiliser plein d'énergie fossile, de les pointer du doigt en disant arrêtez, alors que nous-mêmes on a fait ce qu'on leur reproche.
C'est un questionnement intéressant. Là c'est de la politique, donc je suis pas compétent et forcément très légitime sur ces points-là. Après, alors sur ce que nous on peut faire par rapport au fait qu'il y ait ces pays qui émettent beaucoup de CO2 et de méthane, ce qu'on peut faire c'est par exemple, on a une déforestation au Brésil, et donc tout ça contribue à une agriculture intensive, on va peut-être Peut-être que dans ce cas-là, il faudrait limiter les importations de production agricole qui viennent du Brésil. C'est peut-être une réponse que l'on pourrait faire, ou éviter d'importer des productions qui viennent en Chine alors qu'on peut les faire en France ou en Europe.
Merci beaucoup François Beauvais d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle, vous êtes chercheur et climatologue à l'Université de Caen. Bonne journée à vous.
Merci.
Bonne journée.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Et avant de se quitter, voici l'agenda de la semaine. C'est la semaine européenne du développement durable et à l'occasion, l'Université de Caen organise des manifestations gratuites et ouvertes à tous. Deux thèmes forts de cette semaine, les abeilles et le développement durable au quotidien. Vous pouvez retrouver l'exposition « Les abeilles sauvages, reines de la pollinisation, butineuses méconnues », une exposition de Isabelle Avise, une apicultrice amatrice, du lundi 26 au vendredi 30 septembre au campus 1 à Aula Magna.
Si vous souhaitez devenir un acteur de la recherche sur le microbiote, on ne juge pas, chacun ses rêves, vous pouvez participer à l'opération French Gut, une opération lancée et portée par l'INRAE, l'Institut de Recherche pour l'Agriculture et l'Alimentation, qui vise à cartographier et comprendre l'hétérogénéité des microbiotes intestinaux sains des Français, les facteurs qui les impactent, ainsi que leurs déviations dans les maladies chroniques. L'objectif pour l'INRAE est de récolter 100 000 échantillons de sel de Français d'ici 2027. Pour participer comme moi et Rémi, vous pouvez vous inscrire via le site internet lefrenchgut.fr. La procédure à suivre vous sera indiquée.
Une petite recommandation du reportage pour cette semaine, jeudi soir, un reportage au cœur du Titanic et de l'oasis de vie qui s'y est développée. Une équipe franco-américaine, après des recherches acharnées et l'utilisation de nouvelles technologies, ont réussi à retrouver l'épave à 3800 mètres de profondeur. Ils y ont découvert tout un écosystème. Titanic, au cœur de l'épave, c'est jeudi soir sur France 5.
C'est pas faux, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter les précédentes émissions en podcast sur phoenix.fm.
Merci à Guillaume qui a réalisé cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Dans quelques instants, vous pouvez retrouver Chloé pour La Méridienne. Passez une bonne journée sur Radio Phoenix.